Rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson « Back on the Chain Gang » des Pretenders. Été 1982, Londres. À la fin des années 70, les Pretenders surgissent de la scène londonienne comme une évidence. En quelques mois à peine, ils passent des clubs étroits et enfumés à une place centrale sur la scène rock internationale. Les radios s'emparent des morceaux. La presse suit, le public adhère. Le succès n'est pas progressif, il est immédiat. Dès les premiers singles, le ton est donné. Brass in Pocket s'impose comme un tube mondial, mélange d'assurance insolente et de retenue presque froide. Kid, Tattooed Love Boys ou encore Precious confirment qu'il ne s'agit pas d'un coup isolé, mais d'un style déjà parfaitement défini. Les chansons claquent, les refrains s'impriment. Les guitares tracent des lignes nettes sans bavure. Les Pretenders s'inscrivent dans une mouvance post-punk en pleine recomposition. Le punk a ouvert la voie, brisé les règles. Eux en gardent l'urgence et l'attitude, mais y injectent une science de l'écriture pop et une tension rock héritée des années 60. Ce n'est ni du punk pur, ni de la pop docile, ni du rock classique. C'est un équilibre instable entre nervosité et élégance. Parfaitement maîtrisé. Au centre de tout, Chrissy Hynde, la frontwoman. Dès les premiers morceaux, elle impose une voix, une posture, une direction. Froide, sans être distante. Déterminée, sans être rigide. Elle écrit comme elle avance, frontalement. Pas de slogan, pas de posture idéologique plaquée, mais une lucidité presque brutale. Chrissy n'écrase pas les musiciens autour d'elle. Elle les canalise. Le groupe fonctionne comme une mécanique tendue où chaque élément a sa place. Les guitares tracent, la rythmique tient. Les chansons vont droit au but. Rien ne déborde, rien n'est gratuit. Les premiers succès installent rapidement les Pretenders comme un groupe à part. Ni héritier nostalgique, ni enfant docile de la New Wave. Ils incarnent une nouvelle autorité dans le rock. Moderne, mixte, affranchi des rôles assignés. Une musique qui avance vite, trop vite peut-être, sans encore mesurer le prix de cette ascension fulgurante. Si Chrissy Hynde est bien le cerveau du groupe, James Honeyman Scott en est assurément le cœur. Guitariste à l'allure discrète, chacune de ses notes semble tomber exactement au bon endroit. Son jeu devient la signature du groupe, fluide, mélodique, sans jamais forcer. Là où d'autres remplissent l'espace, lui le dessine. Le succès confirme cette impression. Les disques se vendent, la presse en sens, mais une machine infernale se met en route. Les concerts s'enchaînent, les tournées s'allongent, les nuits se raccourcissent, l'excitation de la scène, la reconnaissance soudaine, l'énergie du public crée un état d'euphorie presque continu. Peu à peu, l'adrénaline ne suffit plus. L'héroïne circule, d'abord comme un bruit de fond, puis comme une présence constante. Le groupe avance, mais quelque chose se dérègle. Chrissy sent le danger. Elle voit le tempo se briser, la tension se dissoudre. Elle comprend que ce qui fait la force des Pretenders, cette tension maîtrisée, cette précision, est en train de se déliter. Les discussions deviennent plus dures, les choix plus tranchés. La musique n'est plus le seul enjeu. Il s'agit de la survie du groupe. Le point de rupture arrive brutalement. Pete Farndon, le bassiste, est évincé du groupe en juin 1982 pour sa dépendance à l'héroïne. À ce moment-là, la situation n'est plus seulement personnelle, elle est devenue structurelle et dangereuse pour le groupe. Farndon consomme de plus en plus, arrive instable en répétition, imprévisible sur la route. Les tensions sont constantes, la cohésion musicale se fissure, la fiabilité aussi. Pour Chrissy Hynde, la question n'est plus artistique, mais vitale. Elle voit ce que la drogue est en train de faire au groupe. Elle voit surtout ce qu'elle a déjà fait ailleurs, autour d'elle. Dans cette scène post-punk où les excès sont souvent glorifiés jusqu'à l'effondrement. Hind pose alors une ligne claire. Les Pretenders ne survivront pas si rien ne change. La décision d'évincer Farndon est prise dans l'urgence et la douleur, non sans ambiguïté morale. Il n'est pas licencié pour manque de talent, au contraire. Il est un bassiste clé du son des premiers disques, mais parce que son addiction menace l'équilibre collectif. Chrissy Hind espère encore que ce geste radical provoquera un électrochoc, une prise de conscience. Le groupe est debout, mais bancal. Il reste l'essentiel, il reste James. Mais deux jours plus tard, tout s'arrête. Le 16 juin 1982, James Honeyman Scott est retrouvé mort dans son appartement à Londres. Il a 25 ans. La cause officielle est une défaillance cardiaque provoquée par une overdose. Contrairement à l'image que l'on associe souvent aux excès du rock, il ne s'agit pas d'une nuit de fête qui tourne mal, mais d'un corps déjà affaibli, usé par une dépendance profonde et installée. James consommait de l'héroïne depuis plusieurs années, tout en continuant à jouer, composer, enregistrer. Au de l'extérieur, rien ne laissait vraiment deviner l'ampleur du problème. Pour Chrissy, le choc est double. Elle perd un ami proche, mais aussi le cœur musical du groupe. À cet instant précis, les Pretenders cessent d'exister tels qu'ils étaient. Chrissy se retrouve seule face à un vide brutal. Continuer semble presque indécent, arrêté par la logique. Mais la réalité ne suspend rien. Les contrats existent toujours. La chaîne est là, invisible, contraignante, impossible à rompre. La reconstruction commence alors sans lyrisme. Chrissy choisit de repartir avec des musiciens capables de tenir la route avant de briller. À la guitare, Robbie McIntosh apporte un jeu sobre, discipliné, au service des chansons. À la basse, Malcolm Foster stabilise la rythmique. À la batterie, Bruce Gary, en musicien de session. Un retour à une énergie fondatrice, sans nostalgie. Il ne s'agit plus de magie, mais de méthode. Il faut revenir à l'essentiel. Des structures solides, une émotion contenue. Transformer la perte en mouvement. C'est dans ce cadre précis, un groupe meurtri, recomposé, contraint d'avancer malgré tout, qu'une chanson commence à prendre forme. Pour Chrissy Hind, il est grand temps de remettre les Pretenders sur le bon chemin. Un moment qui est à l'origine de la chanson « Back on the Chain Gang » qui paraîtra fin 1982 en single, puis sur « Learning to Crawl », le troisième album studio des Pretenders. « Back on the Chain Gang » n'est ni une chanson de deuil classique, ni un manifeste de renaissance triomphale. C'est une chanson de reprise contrainte. Elle parle du moment où l'on se remet en mouvement, non pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'on n'a plus le choix. La Chain Gang, ces prisonniers enchaînés les uns aux autres, devient une métaphore puissante. Celle du travail, du groupe, de l'industrie musicale, mais aussi du lien invisible qui empêche de s'effondrer complètement. Chrissy Hind n'écrit pas pour expliquer la mort de James Honeyman Scott. Elle écrit pour continuer à avancer malgré son absence. La chanson s'adresse autant à lui qu'à elle-même. Constater la perte, reconnaître la colère, puis accepter la nécessité de reprendre la route. I found a picture of you. Oh, oh, oh. What hijacked my world at night? To replace in the past, we've been cast out of the... J'ai retrouvé une photo de toi. Eh bien, elle a détourné mon monde pendant la nuit, vers un lieu du passé, dont on a été chassé. Et maintenant, nous voilà de retour dans le combat. Le souvenir ne conduit pas à l'effondrement, mais à l'action. La mémoire devient un moteur, presque une obligation morale. Le « nous » est essentiel. Il englobe à la fois le groupe, le lien avec James, et l'idée collective du combat à reprendre. La douleur n'est pas effacée, elle est canalisée. C'est précisément là que « Back on the Chain Gang » se distingue d'une chanson de deuil classique. Le passé ne paralyse pas, il pousse à avancer malgré tout. Il y a aussi une colère très nette contre le pouvoir en place, ses forces abstraites. L'industrie musicale, la pression du succès, l'environnement toxique de la scène. Plus largement, un système qui broie les individus tout en prétendant les célébrer. Chrissy ne parle pas d'un ennemi précis, mais d'un ensemble de contraintes invisibles qui façonnent les comportements et enferment les artistes dans un mode de vie qu'ils n'ont pas toujours choisi. Les pouvoirs en place, ceux qui nous forcent à vivre comme nous vivons, me mettent à genoux quand je vois ce qu'ils t'ont fait. Musicalement, le morceau est construit sur un paradoxe. Le riff est lumineux, presque aérien. Le tempo est stable. La mélodie immédiatement mémorisable. Rien ne crie la douleur. Et c'est précisément ce qui rend la chanson bouleversante. On est de retour dans le train, ouais. De retour dans la chaîne des forçats. La guitare de Robbie McIntosh reste sobre, disciplinée. Elle ne cherche pas à remplacer Honeyman Scott, mais à servir une nouvelle dynamique. Tout est tenu, maîtrisé, contenu, à l'image de l'état émotionnel de Chrissy Hynde à ce moment-là. Sorti fin 1982 en single contre toute attente, Back on the Chain Gang devient un immense succès, notamment aux États-Unis où il atteint le top 5. Pour le public, c'est un retour. Pour le groupe, c'est une preuve de survie. La chanson marque officiellement la renaissance des Pretenders, mais dans une version transformée, plus contrôlée, plus consciente de ses fragilités. Avec le temps, Back on the Chain Gang est devenue l'une des chansons les plus emblématiques du groupe. Non pas parce qu'elle raconte une histoire spectaculaire, mais parce qu'elle capte un moment universel, celui où l'on continue malgré tout. Elle incarne aussi une autre facette de l'ADN rock, non pas brûler jusqu'à disparaître, mais tenir jour après jour.
Fall to ruin one day for me. making us part. In the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu. RTBF Classique 21. You Rock.